donc à cette même période de Noël, ma fille me disait, en rentrant de l'école, « Papa, il faut mettre une étoile tout en haut du sapin, sinon le Père Noël, il ne sera pas content. » Alors ça m'a un peu déconcerté. Elle me dit « Oui, si je fais des bêtises, le Père Noël, il ne me donnera pas de cadeau. » C'est vrai hein, que ça fait partie de ce que moi j'appelle le folklore de Noël. D'ailleurs, on a lu tout à l'heure dans notre psaume 61 « Ô Dieu, mes souhaits, tu les as exaucés. » On aurait peut-être pu prendre ce verset pour la prédication ce matin. Est-ce que Dieu est le Père Noël ? Non, hein ? Et il faut que nous apprenions à nos enfants à distinguer ce qui fait partie de la Bible et ce qui fait partie du folklore, des traditions qui entourent cette fête de Noël, afin que ni les enfants, ni les adultes d'ailleurs, ne confondent les deux. Nous les adultes, nous avons tendance à compliquer ce qui est simple. Et notre société complique de manière assez incroyable ce qui devrait être une fête simple. Simon l'a évoqué d'ailleurs dans sa prière tout à l'heure. Et ce matin, dans cette prédication qui sera assez courte, j'aimerais que nous revenions à des choses simples. En relisant ensemble le texte qui a été un des textes de notre temps de célébration de la semaine dernière, celui qui concerne l'annonce de la naissance de Jésus au berger. Et ma prière ce matin, c'est que nous puissions accueillir à nouveau humblement, mais aussi vivre simplement ce temps de fête de Noël que nous vivons ces jours-ci et qui nous rappelle la naissance du Christ. Alors, je vous invite à prendre avec moi la lecture au début de l'Évangile selon Luc. Nous allons lire au chapitre 2, les versets 8 à 20. Luc, chapitre 2, les versets 8 à 20. Dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit. Mais l'ange les rassura. « N'ayez pas peur. Je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes et couché dans une mangeoire. » Et tout à coup apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Quand les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent l'un à l'autre, « Allons donc jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent donc d'y aller et trouvèrent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Quand ils le virent, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent le récit des bergers en furent très étonnés. Marie, elle, conservait le souvenir de toutes ces paroles et y repensait souvent. Les bergers s'en retournèrent, louant et glorifiant Dieu au sujet de tout ce qu'ils avaient vu et entendu. C'était bien ce que l'ange leur avait annoncé. J'aimerais juste commenter ce texte en trois temps ce matin. Le premier que j'ai intitulé « Une annonce sur trois ». Vous avez peut-être remarqué, si vous avez lu le premier chapitre de l'Évangile selon Luc, que cette annonce de la naissance d'un enfant faite par un ange, c'est pas la première annonce, c'est la troisième. Il y a dans le récit de l'évangile selon Luc trois annonces de la naissance d'un enfant faite par un ange. D'abord, une première annonce faite au prêtre Zacharie. Ensuite, une annonce faite à Marie, qui à ce moment-là est la future mère de Jésus. Et puis, la troisième, dans notre texte de ce matin, au berger qui se trouve dans les champs. Et vous pourrez relire à la maison le premier chapitre et comparer ces trois annonces. On retrouve en fait un peu le même récit, le même scénario si l'on veut. D'abord, un ange qui apparaît et qui provoque une certaine émotion. Zacharie a peur, Marie est étonnée et les bergers, comme Zacharie, ont peur aussi. Et à chaque fois, deuxièmement, l'ange doit rassurer les personnes. Bah oui, un ange qui débarque, qui arrive comme ça, qui apparaît d'un seul coup, c'est pour le moins étonnant. Et à chaque fois, l'ange dit « N'ayez pas peur aux bergers » ou « N'aie pas peur à Zacharie ou à Marie ». Troisième point commun, l'ange annonce une bonne nouvelle. Et ici, il parle du sauveur d'Israël, au verset 11. Un sauveur vous est né aujourd'hui. Quatrième point commun, l'ange annonce un signe qui accompagnera la réalisation de cette annonce. Zacharie deviendra muet lorsqu'il sortira de la synagogue, parce qu'il n'a pas eu confiance en cette annonce. Marie, eh bien, accouchera d'un enfant, sera enceinte par l'action du Saint-Esprit et accouchera d'un enfant. Et puis les bergers, ce qui leur est donné comme signe, c'est l'enfant dans ses langes et dans une mangeoire. Et d'ailleurs, vous avez vu qu'ils vont vérifier par eux-mêmes si c'est vrai ce qu'on leur a annoncé. Cinquième point commun, c'est la réalisation de ce qui est annoncé. Zacharie devient muet, Marie tombe enceinte, et les bergers constatent de leurs propres yeux que l'enfant annoncé est bien dans une mangeoire. Sixième et dernier point commun, on chante dans tous ces passages. Zacharie, qui est muet, retrouve la parole et se met à louer Dieu, à entonner un chant. Marie, après cette annonce de l'ange, cette visite de l'ange, entonne un chant. Et ici, ce sont les anges qui entonnent un chant. D'abord l'ange Gabriel, et puis ensuite une multitude d'anges, des milliers d'anges qui se mettent à l'accompagner. On peut voir avec ces différentes comparaisons qu'à chaque fois, Dieu se révèle par l'intermédiaire d'un envoyé, un ange, à différentes personnes qui ont un rôle important dans ce récit de la naissance de Jésus. Alors on pourrait se demander, pourquoi tant d'importance accordée à cet enfant ? Et je vous propose que nous nous arrêtions quelques instants sur ce que dit l'ange au sujet de cet enfant qui va naître. Donc, cette annonce, qui est une des annonces sur les trois, est une annonce importante parce qu'elle nous annonce que Dieu visite son peuple. C'est le deuxième temps de cette prédication. Les bergers qui voient apparaître cet ange devant eux ont peur et sont appelés à passer d'un état émotionnel de peur à une grande joie. Verset 10. L'ange les rassura en leur disant « N'ayez pas peur, je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. » Pourquoi ? Parce que l'enfant qui va naître n'est pas n'importe qui. Qui est-il donc ? Luc utilise trois termes ici pour désigner l'enfant. Un sauveur, le Messie et le Seigneur. Regardons rapidement ces trois termes. Sauveur, c'est quoi? C'est le titre, le mot, que porte Dieu lui-même dans l'Ancien Testament, dans la première partie de la Bible. C'est le mot qu'on utilise, par exemple, lorsque Dieu délivre, sauve son peuple de l'esclavage en Égypte. L'annonce d'un enfant qui va sauver son peuple, c'est l'annonce d'un de ces nouveaux personnages, comme dans le livre des Juges, par exemple, qui va sauver le peuple d'une situation de détresse, et qui est envoyé par Dieu lui-même, et qui est dans certains textes, Dieu lui-même qui intervient pour délivrer son peuple. Le mot Messie. Le Messie, c'est celui que les prophètes de l'Ancien Testament avaient annoncé depuis des générations et des générations, celui qui devait venir délivrer Israël pour régner sur Israël. Le Messie, le Christ, on pourrait traduire le roi, tout simplement. Troisième terme que Luc utilise ici, le Seigneur. Alors le mot Seigneur, c'est un mot que l'on trouve de nombreuses fois, à la fois dans les évangiles. Jésus est appelé Seigneur par un bon nombre de personnes qui le croisent, parce que le Seigneur, le Maître, c'est le même mot, l'enseignant, le Rabbi, le Rabbin. Hein ? Et Jésus est effectivement un Maître, celui vers qui on se tourne pour interpeller, voilà, le sage, celui qui sait, et celui qui sait répondre aux questions. Mais Luc n'appelle pas Jésus seulement un seigneur ici, ou un seigneur en tant que maître de sagesse. Il utilise l'expression « le Seigneur » qui est très rare, en fait, dans les évangiles. Matthieu et Marc ne l'utilisent pratiquement jamais. Une fois, Marc, dans le chapitre 11, lorsqu'on va détacher l'âne sur lequel Jésus va entrer dans Jérusalem, Jésus dit à ses disciples, si on vous demande pourquoi vous allez détacher l'âne, dites, le Seigneur en a besoin. C'est la seule fois que Marc utilise ce terme, après l'avoir utilisé tout au début de son évangile, pour dire que Jésus est le Seigneur qui doit venir. Et Luc l'utilise plusieurs fois pour dire que cet enfant qui naît, c'est le Seigneur, c'est-à-dire Dieu lui-même. Ces trois titres, donc, un sauveur, le Messie et le Seigneur, correspondent aux caractéristiques royales et messianiques qui étaient annoncées par les prophètes de l'ancien temps. Et là, Luc est en train de nous dire, ça y est, comme on l'a dit la semaine dernière, le moment est arrivé. Et l'ange va dire au berger, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Alors regardons maintenant, et pour finir, comment ce personnage glorieux va finalement intervenir dans cette histoire. De quelle manière ? Et la chose qui devrait nous étonner, c'est le contraste entre cette annonce glorieuse de ce personnage glorieux et la simplicité, c'est le moins qu'on puisse dire, du contexte dans lequel naît ce roi glorieux. Alors, on retrouve l'aspect glorieux dans déjà cet ange qui apparaît, mais aussi cette multitude d'anges qui se joignent à l'ange pour louer et glorifier Dieu. Et puis, il y a ces personnages, ces témoins inattendus, des bergers. En dehors de la famille de Jésus, vous avez peut-être d'ailleurs noté dans notre texte que lorsque les gens viennent, les bergers viennent, il y a d'autres personnes. Puisque Luc nous dit, je retrouve le verset 18, « Tous ceux qui entendirent le récit des bergers, en furent très étonnés. C'est qui ça, tous ceux? C'est Marie, Joseph, et puis d'autres qui sont là. Voilà, autour de la naissance de Jésus. Peut-être des membres de la famille, peut-être des gens de passage, des visiteurs, nous ne savons pas. Il y a ces bergers qui sont là témoins de la naissance de Jésus. Il n'y a pas les mages d'ailleurs, entre guillemets. Mages, c'est les sages venus d'Orient, hein, et qui arrivent chronologiquement plus tard, hein, dans le récit, quand Jésus a probablement déjà 1 ou 2 ans. Donc en rentrant à la maison ce midi, vous pouvez les enlever de la crèche, hein, les mages. Ils ne sont pas là. Hein, voilà. Ils sont en chemin. On a là des personnages inattendus. Pourquoi ? À l'époque, la catégorie sociale berger, c'est tout en bas de l'échelle sociale. Alors eux, ils n'ont aucun avantage au niveau de la retraite, rien du tout. Hein. Eux, ils ne font pas grève. Voilà. Le métier de berger, c'était un métier méprisé et méprisable pour la culture juive. On les considérait comme des gens de mauvaise vie, malhonnêtes, et de fait rituellement impurs, puisqu'ils passaient leur temps à côtoyer des animaux. Donc ils vivaient dans une certaine saleté, et voilà, on n'entrait pas en contact avec ces gens-là. Il paraît qu'ils n'avaient pas le droit de témoigner lors des procès. Hein, les gens qui ne sont pas recommandables, on ne prend pas en compte leur témoignage dans les procès. Et là, Luc nous présente ces personnages-là, ces personnes-là, peu fréquentables, peu recommandables, comme les premiers témoins de la naissance du Messie d'Israël. Dieu agit à contre-courant des catégories sociales établies par les hommes, et retourne, inverse la situation. Ces bergers, dont le témoignage n'était culturellement, socialement pas recevable lors d'un procès, se trouvent être les premiers témoins de la naissance du Messie. Comme souvent, Dieu se sert de ce qui n'a que peu d'importance, peu de valeur aux yeux des hommes pour accomplir sa volonté. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens au chapitre 1 et au verset 27 et 28. Il dit « Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages, et il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. » Dieu a porté son choix sur ce qui n'a aucune noblesse et que le monde méprise, sur ce qui est considéré comme insignifiant, pour réduire à néant ce que le monde estime important. L'apôtre Paul parle ici de l'évangile, qui est une folie pour les... qui est une folie pour les hommes. Dieu aime prendre le contre-pied de ce que nous voyons souvent comme des choses importantes et qui nous aveuglent. Le message de l'évangile, la bonne nouvelle de la naissance du Christ, est adressé à de simples bergers. Alors cette simplicité se voit aussi dans le lieu de naissance choisi par Dieu. Je relis les versets 10 et 11. L'ange annonce au berger cette bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Les bergers devaient s'attendre à un truc incroyable. Un ange qui apparaît pour leur dire « Voilà le signe preuve de la naissance du roi. vous trouverez un enfant, un nouveau-né, dans ses couches, les langes c'est ça, dans ses couches, et allongé dans une mangeoire. Pas de trompette, pas de fanfare. Bon, il y a quand même un cortège d'anges qui annonce la paix et la gloire de Dieu. Mais quelle gloire ! La gloire d'un enfant nouveau-né, couché dans une mangeoire, et langé, dire, contenu par des linges. Comme on l'a dit déjà la semaine dernière, la naissance de Jésus n'a pas fait la une des journaux, de la presse locale ou de la presse people. Aucun blog n'en a parlé. Jésus n'était ni sur Twitter, ni sur Facebook. La gloire de Dieu, à ce moment de notre histoire humaine, c'est d'être couché dans une mangeoire. Parfois, nous oublions ce contraste. Le Créateur de l'univers, notre Créateur, s'est fait homme, est né et a passé ses premières nuits dans une mangeoire. Dieu avec des couches. Je l'invente pas, hein. C'est Luc qui précise que le nouveau-né est dans ses langes. Il le dit même deux fois, au verset 7 et au verset 12. On est loin des guirlandes, des paillettes et de la dinde au marron. Même si c'est bon, une bonne dinde au marron pour Noël. Luc souligne la naissance très humble et discrète de Jésus. Sauf pour les gens du bas peuple qui, eux, voient un ange en direct et entendent la chorale céleste chanter. Il y a là, dans la manière de nous raconter ces événements, on sait que Luc a été en contact avec Marie, la mère de Jésus, qui lui a probablement raconté toutes ces choses, et il les a écrites, il a fait son récit aussi avec les témoignages de Marie. Et Luc nous raconte ces choses-là d'une manière toute simple. Comme pour nous dire que la bonne nouvelle de la naissance du Christ, l'évangile, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est tout simple. Et ça s'adresse à tous. Même ceux qu'on n'irait pas chercher parce qu'ils ne sont pas recommandables. Dans l'évangile selon Luc, on voit que l'ange s'adresse à la fois à Zacharie, qui est un des représentants des responsables religieux du peuple, donc quelqu'un qui est quand même haut placé dans la société, mais aussi à Marie, qui est une jeune femme inconnue, probablement une jeune adolescente, jeune femme, et puis de simples bergers. Il y aura aussi ces sages, ces scientifiques qui vont venir de l'Orient, conduits par l'étoile, et qui, eux, représentent aussi les non-juifs, qui sont aussi appelés à venir se prosterner devant le Fils de Dieu. Alors, entre parenthèses, hein, ces mages, on ne sait pas combien ils étaient. Hein. Et ils ne s'appellent pas Gaspard, Balthazar et Melchior. Hein. Ils n'étaient pas rois et ils n'ont pas apporté la galette. D'accord ? Voilà. On m'aurait menti. Ouais. Voilà, ça fait partie du folklore de Noël. Hein ? Mais ce n'est pas dans la Bible. La naissance de Jésus, c'est ça le message important, est une bonne nouvelle pour tous. Voilà, s'il y a une chose à retenir ce matin, c'est ça. L'évangile, la naissance de Jésus, est une bonne nouvelle pour tous. Une bonne nouvelle pour les juifs, une bonne nouvelle pour toutes les catégories sociales, et une bonne nouvelle pour tous ceux qui ne sont pas juifs. Nous qui sommes réunis ici ce matin, nous sommes donc invités en cette période où nous nous souvenons de la naissance du Christ, et comme nous y avons déjà été invités tout à l'heure, à nous approcher de Dieu. Comment ? Comment cela est-il possible ? Cela est possible parce que Dieu s'est approché de nous, en Jésus. C'est parce que Dieu, en venant en la personne de Jésus, est venu nous annoncer la paix. Verset 14. Les anges chantent « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Pas aux hommes qui l'aiment, mais aux hommes que Dieu aime. C'est donc Dieu qui nous invite à la paix, parce que Dieu nous aime. Nous pouvons chercher par nos propres moyens à aimer Dieu. C'est louable, mais ça ne crée pas le contact avec Dieu. Il faut que Dieu vienne à notre rencontre pour que nous puissions le rencontrer. C'est ça qui fait le cœur du christianisme. C'est ça qui fait que le christianisme est unique. Toutes les autres philosophies ou religions cherchent les moyens pour l'homme d'atteindre Dieu. La Bible nous dit que cet effort est louable, mais impossible à atteindre. L'objectif est impossible à atteindre. Dieu ne se laisse trouver que quand il se révèle, quand il se donne à nous. Et il se donne à nous en Jésus. Et c'est cela que nous rappelons Noël après Noël, année après année. Dieu s'est approché de nous. Noël, c'est un message de paix. Pas seulement la paix que les hommes sont appelés à faire entre eux, ou la paix que nous essayons de préserver pour que le Père Noël nous gâte. C'est surtout et d'abord la paix que Jésus est venu nous apporter pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Quelques années après sa naissance, une trentaine d'années à peu près, Jésus est mort sur une croix où il a subi à notre place le châtiment que nous méritions afin que nous échappions à la colère de Dieu. Comme le dit le prophète Ésaïe au chapitre 53 et au verset 5, le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Alors, veillons cette semaine à fêter Noël avec joie et simplicité. La joie de nous souvenir qu'un Sauveur nous est né, comme il est annoncé au berger ici. Et la simplicité dans nos festivités, puisque la naissance de Jésus a été simple, modeste. Souvenons-nous aussi que nous sommes appelés à partager plus que des cadeaux ou de la nourriture matérielle. Si nous sommes chrétiens, nous sommes porteurs d'un message de paix, de réconciliation. Je vous invite à trouver, pendant les prochains jours, en couple, en famille, ou peut-être avec un frère ou une sœur de l'Assemblée, un moment de prière pendant ces fêtes, pendant ces temps de fête. Depuis quelques années, nous avons la chance, la grâce, je pense c'est une grâce de Dieu, de pouvoir, pendant ces temps de fête, de prendre un temps de prière en famille. pas seulement de nous réunir autour d'une bonne dinde, comme je le disais tout à l'heure, mais aussi de prendre du temps pour prier ensemble. Et on fait ça une ou deux fois par an. Et ça nous donne l'occasion de voir aussi, au bout de 6 mois, au bout d'un an, année après année, comment Dieu a répondu à nos prières. Nous avions prié il y a quelques années pour que Marie-Cécile se marie. Et puis elle s'est mariée. Nous avons prié pour qu'elle puisse, elle aussi, tomber enceinte, avoir un enfant. Et puis Raphaël est né. Voilà. Et c'est dans ces temps de prière en famille où nous avons partagé plus que des cadeaux, qu'en général on s'envoie les listes et puis chacun achète ses cadeaux et puis les emballe et puis dit « Oh, ma surprise !» Aïe, aïe, aïe. Voilà ce que Noël est devenu. On emballe ses propres cadeaux et on fait semblant d'être surpris. Il faut que nous allions au-delà de cela, les amis. Et nous rappeler que, en tant que frères et sœurs en Christ, si nous avons le privilège de partager cela aussi en famille, de pouvoir prier ensemble dans ces temps de fête. Prier aussi pour les membres de nos familles avec qui nous ne pouvons pas, ou pas encore, partager ces choses-là. Que Dieu continue à agir et puisse aussi se révéler comme à ses bergers et leur dire, mais vous savez, un sauveur vous est né et vous pouvez aussi le rencontrer. Il peut aussi changer le cours de votre vie et devenir votre Seigneur, le Seigneur qui va un jour régner sur terre. Je vous invite donc pendant ces fêtes à trouver, si vous le pouvez, un temps de prière avec d'autres pour peut-être faire un bilan de cette année, partager un sujet de prière et puis voir aussi dans les prochains mois comment Dieu répond à ces prières. Et je vais aussi prier pour nous pour terminer cette prédication. Prions. Seigneur, merci parce que dans ces derniers jours de l'année 2019, au travers de ces paroles de l'Évangile, c'est comme si tu nous rendais visite à nouveau et pour nous rappeler ta présence. Nous avons parlé dans la première partie de ce culte de ta présence. Et nous voulons te dire merci parce que par ces paroles, tu te rends présent à nous. Tu nous redis à nouveau, un sauveur vous est né. Ce sauveur, ce n'est pas n'importe qui, c'est le roi. Le roi qui règne aujourd'hui et qui va venir un jour établir pour toujours son règne sur terre. Que nous puissions garder dans nos cœurs ces paroles alors que nous mangerons ensemble, alors que nous partagerons ensemble ces moments de fête à Noël pour le Nouvel An, que nous puissions vivre ces temps de fête avec une joie et une simplicité qui viennent de toi. Merci parce que tu as voulu nous réconcilier avec toi et nous appeler à vivre dans la paix et dans la joie. Tu vois, nous sommes si souvent découragés, si souvent troublés. Viens à notre secours si nous traversons un moment difficile, un moment d'épreuve, un moment de découragement, ou simplement si nous avons oublié que nous sommes appelés à la joie et à la paix. Que nous puissions cette semaine nous laisser ramener vers toi, par toi, au nom de Jésus. Amen.